Europe 1.
Le journal Christophe Lamarre, bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Beaucoup souhaitent que je dirige le prochain gouvernement et que je forme la majorité. C'est un résultat grandiose.
Olaf Scholz revendique la victoire du SPD, mais son principal adversaire de la CDU, Armin Laschet, estime que les jeux sont loin d'être faits.
C'est pourquoi nous allons tout faire pour former un gouvernement dirigé par la CDU.
Un peu moins de 26% des voix pour les sociaux-démocrates contre un peu plus de 24% pour les conservateurs. Résultat très serré donc. Il va falloir maintenant s'entendre pour mener une coalition. On voit ça tout de suite avec vous, Hélène Kohl. Vous êtes notre correspondante à Berlin. Bonjour.
Bonjour.
Les deux camps revendiquent la formation de la future coalition. Avantage tout de même au SPD, Hélène.
Oui, et la presse se fait le reflet de cette situation. C'est un garçon, ironise le journal Taz, une référence à sa une il y a 16 ans annonçant l'élection de Merkel. Une façon surtout de ne pas s'avancer sur Scholz ou Laschet, car SPD et CDU revendiquent la chancellerie, mettant une le Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dans un contexte d'augmentation de la participation, l'avantage, vous l'avez dit, tourne toutefois ce matin en faveur des sociaux-démocrates en avance de 1,7 point. Ce ne sont encore que des résultats partiels. Les urnes ont bien été toutes dépouillées dans les 299 circonscriptions, mais à cause du système très compliqué des mandats compensatoires, on ne sait pas encore combien chaque camp aura de députés. Donc arithmétiquement, on peut envisager, oui, que les conservateurs soient en mesure de monter une coalition, même si clairement Olaf Scholz a pris l'ascendant psychologique. Tout dépendra du choix des Verts et des libéraux, respectivement à 14,5% et 11,5%, en position de faiseur de roi. Tout est possible et rien n'est exclu, pointait hier un politologue, sauf une participation des extrêmes au prochain gouvernement allemand. Il n'y aura pas d'AFD qui perd des voix à 10% et pas de Die Linke à 5%.
Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 en Allemagne.
Après Berlin, direction maintenant Bruxelles, où l'on retrouve notre correspondante en direct. Bonjour Isabelle Horry.
Bonjour.
Isabelle, c'est toute l'Europe qui est suspendue à la formation de ce nouveau gouvernement allemand.
Mais oui, parce que tant que la coalition ne sera pas formée, l'Allemagne ne pourra pas pleinement jouer son rôle au niveau européen, elle ne pourra pas prendre de décisions politiques importantes. Et si ça dure, ça sera une mauvaise nouvelle pour la France, qui, on le sait, va présider l'Union européenne à partir du 1er janvier. Alors pour autant, les Européens ne sont pas surpris par les résultats des élections. Depuis des semaines, ils anticipent une alliance à trois partis. Quoi qu'il arrive, ce sera un gouvernement pro-européen, se rassure un diplomate. Reste deux grands points d'interrogation tout de même. D'abord, à part le social-démocrate Olaf Scholz, les autres n'ont pas l'habitude du pouvoir fédéral. Il va falloir du temps à leurs équipes pour s'acclimater, tout particulièrement sur les dossiers européens comme le numérique ou le plan climat. Ensuite, il y a l'arrivée potentielle du parti FDP au gouvernement. Les libéraux allemands sont des partisans farouches du pacte de stabilité et de la réduction des déficits. Or, justement, la révision des règles budgétaires européennes, ce sera l'une des grandes discussions l'année prochaine.
Isabelle Horry, la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Tous ces thèmes évoqués à l'instant par Hélène et Isabelle. On en reparlera tout à l'heure dans le Zoom Info à 8h40, les enjeux de cette élection allemande aussi, la complexité aussi de la constitution des coalitions qui ont toujours des alliances de couleurs assez baroques outre-Rhin. On verra ça donc en détail. La campagne pour la présidentielle en France cette fois. Éric Zemmour continue d'entretenir le mystère sur sa possible candidature.
On pourrait appeler ça la politique des petits pas. Le polémiste était l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews hier. Il n'a toujours pas dit s'il sera candidat à la présidentielle, mais il a conscience qu'un renoncement pourrait être perçu comme une trahison. Éric Zemmour, qui n'est pas tendre avec les Républicains, accusé d'avoir trahi De Gaulle.
Aujourd'hui, on voit bien qu'est-ce que c'est que devenu LR. C'est un parti de notables centristes qui, après, prétendent que je ne partage pas leurs valeurs. Mais eux-mêmes, en quoi partagent-ils les valeurs du RPR et de la droite d'avant? Non, ils ont eux-mêmes trahi le général De Gaulle et même Georges Pompidou. Voilà.
Est-ce que vous pouvez ne pas y aller? Non, mais c'est une vraie
question. Est-ce que je peux ne pas y aller? Oui, je peux toujours ne pas y aller. Si je n'y allais pas, je décevrais à Yes beaucoup de gens. Ça, c'est sûr. Bon. Et vous avez raison, ça sera pris comme une désertion, une trahison, etc. Ça compte dans ma prise de décision. Oui.
Éric Zemmour, invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews avec Sonia Mabrouk. Ségolène Royal n'ira pas au Sénat. L'ancienne ministre a été sévèrement battue lors des sénatoriales des Français de l'étranger. Sa liste n'a recueilli que 11 voix sur 533.
Europe 1, il est 7h05. La crise sanitaire, le recul de l'épidémie, ça c'est une excellente nouvelle. Le recul de l'épidémie se confirme.
Moins de 6 000 cas positifs par jour en moyenne sur la semaine écoulée. Le taux d'incidence fléchit lui aussi. Il est de 61 au niveau national, mais une majorité de départements sont désormais sous le seuil d'alerte fixé à 50. La levée du du pass sanitaire n'est toujours pas d'actualité. En revanche, la gratuité des tests de dépistage ne sera bientôt plus qu'un souvenir. Le Premier ministre confirme dans une interview aux Échos leur déremboursement au 15 octobre, sauf avis médical ou pour les personnes vaccinées. Quant à la facture totale du Covid, elle coûtera entre 170 et 200 milliards d'euros à la France, selon le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt. Enfin, les appels sonneront dans le vide. SOS Médecins déclenche une grève de 24 heures dès 8 heures ce matin pour obtenir une revalorisation de la rémunération des visites urgentes.
Les conséquences de cette pandémie sont aussi d'ordre psychologique. Les assises de la santé mentale s'ouvrent aujourd'hui. Le constat est alarmant. Europe 1 vous révèle ce matin les conclusions d'une enquête exclusive.
C'était une volonté d'Emmanuel Macron, dresser un état des lieux du secteur avec l'ensemble des acteurs, et il n'est pas brillant. Le Covid, avec ses périodes de confinement et de restrictions de liberté, va laisser des traces chez les Français. Bonjour Élise Dangean.
Bonjour.
Vous nous révélez ce matin ce baromètre sur la dépression réalisé par l'UNAFAM et la Fondation Pierre Deniker. Le résultat est sans appel, l'état de santé d'un malade sur deux s'est dégradé en raison de la crise.
Oui, cette pandémie a clairement joué sur notre morale et a fragilisé celles et ceux qui souffraient déjà de dépression. C'est le cas d'Hélène, 36 ans, dépressive chronique depuis l'adolescence. Elle avait sorti la tête de l'eau jusqu'à l'arrivée du premier confinement.
Le Covid et la pandémie ont fait ressortir beaucoup, beaucoup de choses. C'est là que j'ai enfin pris conscience de la souffrance et de la douleur que je pouvais ressentir et qu'il fallait que je la soigne.
Et c'est tout l'enjeu, selon le baromètre de la dépression. Seul un malade sur trois est pris en charge par un professionnel de santé, en cause notamment le système de soins qui est saturé. Il y a un manque de soignants, notamment chez les pédopsychiatres.
Mais c'est très problématique ça, Élise.
Et oui, imaginez un peu, 30% des moins de 24 ans ont eu des pensées suicidaires ces derniers mois. C'est énorme et c'est très grave, dit le docteur Pierre de Maricourt, psychiatre et chef de service à l'hôpital Sainte-Anne à Paris.
Je rappelle que la dépression, c'est la maladie qui a l'impact en termes d'incapacité la plus élevée dans le monde, largement au-dessus d'autres maladies comme les maladies cardiovasculaires, qui chez les jeunes peut impacter leur développement, leur scolarité évidemment en particulier, et donc la suite de leur vie.
Autre enjeu, lever le tabou autour de la santé mentale. Encore aujourd'hui, près de la moitié des personnes atteintes de dépression n'en parlent pas à leur entourage.
Élise Dangean du service Société d'Europe 1. On va quand même terminer avec un sourire, celui de Julian Alaphilippe, qui est devenu champion du monde de cyclisme sur route pour la deuxième fois consécutive. Exploit rarissime dans le vélo, Dimitri. 7 coureurs seulement ont réussi Paris Performance, mais aucun Français jusqu'à présent.
Bravo Julian, qui court comme un Belge, disaient les supporters. Un peu déçu que ce soit pas l'un des leurs. Les supporters belges, que ce soit pas l'un des l'heure qui est gagnée, mais il reconnaissait quand même la vaillance du coureur français. Merci Christophe, vous revenez à 8h30.